Deutsche Welle. Droits et libertés. Je vous propose aujourd'hui le deuxième volet de notre série sur les réfugiés. Nous irons pour cela dans le sud de l'Italie. Au programme également la République centrafricaine, un pays dans lequel les droits de l'homme sont massivement violés. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine. Je vous ai parlé la semaine passée de ces réfugiés, africains pour la plupart, qui ont atterri à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Ils ont été accueillis là-bas dans une église, mais cela n'est pas forcément du goût des autorités qui pourraient les expulser à tout moment. Beaucoup de ces réfugiés étaient passés auparavant par l'Italie, d'où on les a expulsés avec un visa Schengen de 3 mois et un petit pécule de quelques centaines d'euros. Il leur a été conseillé d'aller voir en Allemagne. Il faut dire que l'Italie, par sa proximité des côtes africaines, attire chaque année des milliers de migrants africains qui arrivent illégalement. Exemple, ce jeune Sénégalais que nos consoeurs Assumpta Latous et Yulia Han ont rencontré dans la région des Pouilles. Et les Pouilles, c'est dans le talon de la botte italienne dans l'extrême sud. Un après-midi d'été, le soleil cogne fort, le vent souffle contre une misérable cabane faite de carton et de plastique. Des mouches bourdonnent autour d'une montagne de déchets puants qui sont là depuis des semaines. Il y a ici des dizaines de ce genre d'abris de fortune. Il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de sanitaire. Les gens qui vivent ici appellent l'endroit le ghetto. Cinq hommes sont allongés sur des matelas à l'intérieur d'une de ces cabanes. 10 autres matelas vides sont à même le sol, séparés par quelques centimètres. Des cordes servent à accrocher les vêtements, des chaussures traînent par terre. La nourriture est mise dans des sacs en plastique. C'est là qu'habite Mbankefal. Il partage son taudis avec 20 autres hommes, originaires pour la plupart d'Afrique de l'Ouest. L'air est fétide. Ibra a quitté le Sénégal il y a 12 ans pour échapper à la misère et c'est là qu'il a échoué. Il a débarqué sur la côte du sud de l'Italie après un périlleux voyage en mer.
Je suis venu ici pour avoir un bon travail et gagner de l'argent pour vivre mieux et aider ma famille à rester au Sénégal.
Ibra a 32 ans, il est menuisier de formation. Au début, en Italie, il a réussi à trouver quelques petits boulots mal payés, comme cueillir des fruits et des légumes, un travail que les Italiens ne voulaient pas faire. Mais avec la crise économique que traverse l'Italie, les emplois, même les plus méprisés, se font rares. Ibra est piégé dans ce ghetto sans avoir où aller.
Cela fait 3 mois maintenant que je n'ai rien pu leur envoyer. J'essaie de leur expliquer que je n'ai pas de travail et pas d'argent. Mais ils ne veulent pas me croire. Ils pensent que je les néglige et que j'ai la belle vie ici en Europe.
Ibra gagnait 3,50 euros de l'heure payés par les Capolari, la mafia italienne et africaine. Il a arrêté de travailler quand le contrat de travail qu'il avait demandé lui a été refusé. Il sait maintenant que s'il avait eu un contrat de travail et s'il avait perdu ensuite son emploi, eh bien, il toucherait maintenant au moins un peu d'argent de l'État. Mais les Capolari ne se soucient pas des droits des travailleurs. Ils retiennent jusqu'à 50% de l'argent payé à des gens comme Ibra par des agriculteurs trop heureux que la mafia leur procure de la main-d'œuvre bon marché. Quitter l'Italie et rentrer au Sénégal, ce serait pour Ibra un aveu d'échec, sans compter qu'il n'a pas du tout l'argent pour se payer un billet d'avion. Ses économies sont presque épuisées. Il ne fait rien de la journée.
La seule organisation qui vient parfois nous voir, c'est Caritas. Ces deux derniers mois, ils ne sont venus que 3 fois. Ils distribuent du riz, des pâtes, des tomates.
Des dizaines de milliers de migrants africains vivent dans les Pouilles. La plupart sont clandestins. Selon les Nations Unies, près de 8000 Africains sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa au cours des 6 premiers mois de cette année. La Centrafrique est officiellement entrée dans une période de transition. 5 mois après avoir chassé François Bozizé du pouvoir, c'était le 24 mars dernier, Michel Djotodia a prêté serment comme nouveau président du pays. La situation n'en reste pas moins préoccupante, et cela sur tous les plans, social, économique ou encore sécuritaire. Les atteintes aux droits de l'homme sont légion. Le général Babacar Gaye en est conscient. C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. C'est également le chef du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Centrafrique, le BUNICA.
Des progrès ont été enregistrés. Il faut, sans hésiter, en féliciter les autorités en place. Mais ces progrès ont atteint leurs limites. D'abord au plan politique, nous avons en effet tous les organes de la transition qui sont en place, nous ne pourrons pas avoir l'étape suivante mise en œuvre, qui est l'étape des élections, si nous n'avons pas une restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, et à cet égard, si nous n'avons pas une sécurité mise en œuvre par des éléments institutionnels. Alors tout le problème de la sécurité aujourd'hui est celui-là. La seule force présente sur le terrain est une force informelle, qui ne bénéficie pas d'un soutien régulier et prévisible de l'État. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les violations des droits de l'homme soient là, avec tout ce qu'on peut envisager comme violation des droits de l'homme. Il ne faut pas s'étonner que la population, du fait de cette situation, vive non seulement dans le besoin, mais également dans la peur.
La peur, par exemple, lorsqu'éclatent des tirs nourris dans un quartier de Bangui, comme cela s'est passé la semaine passée. Et les ex-rebelles de la Seleka, cette force informelle, comme l'a qualifié le général Gaye, sont intervenus dans un quartier considéré comme un fief des partisans de François Bozizé. Il y a eu au moins une dizaine de morts. Kiri Kondé est le coordonnateur de l'Association des journalistes pour la défense des droits de l'homme en République centrafricaine.
Les autorités actuellement disent que c'est à la recherche des armes de guerre détenues par les éléments de l'ex-président François Bozizé, mais ça ne s'avère pas vraiment réellement c'est ce qui s'est passé, parce qu'après, on a remarqué qu'il y a eu des cas de pillages, des cas de règlements de compte pour certaines personnes. Et cela inquiète beaucoup la population. Donc officiellement, cette opération avait pour but de chercher des caches d'armes dans ce quartier de Bouérabé, mais la population n'avait pas du tout compris, parce qu'il n'y avait pas d'échange au préalable avec la population pour qu'ils puissent être informés. On a signalé aussi des cas d'assassinats, d'enlèvements, des pillages, de meurtres. Et la CELIC a procédé aux fouilles des maisons, des portes à porte dans ce quartier-là. Et on a même dit qu'il y a eu des militaires, proches de l'ex-président Bozizé, qui ont été tués aussi dans ce coup. Mais on n'a pas de confirmations. Mais il s'avère qu'il y a 4 membres de l'ancien garde présidentielle de Bozizé qui ont été arrêtés et exécuté par après.
Justement, face à cette situation qui inquiète aujourd'hui la Centrafrique, quelles sont les actions menées par ces différentes organisations de défense des droits de l'homme, en l'occurrence la vôtre?
Bon, nous, ce que nous faisons, c'est informer la population nationale et internationale sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, donner une information impartiale, juste, et surveiller tous les cas de violation, les dire ouvertement, pour que tout le monde puisse être informé et que la population puisse être informée, les autorités et les structures de défense des droits de l'homme, parce que nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des activistes de défense des droits de l'homme. Il y a des structures comme l'Observatoire centrafricain de droits de l'homme et la Ligue centrafricaine de droits de l'homme. Eux, ils sont des activistes sur le terrain. Mais nous, notre travail est d'informer la population nationale et internationale sur ce qui se passe concernant ces cas d'exertion, de pillage et de torture et tout ce qui est violation des droits de l'homme au sein de la population.
Kiri Kondé était interrogé par Salif Ba. Les propos du général Babacar Gaye ont été recueillis par Hyacinthe Abeno aussi. Nous refermons maintenant ce magazine Droits et Libertés. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Si vous voulez réagir au contenu de ce magazine, vous pouvez le faire au moyen d'un SMS au numéro suivant, le 00 49 176 64 12 12 63. Au micro, Marie-Ange Piron.